Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, l'âne de Corée.
Voilà, bonjour à tous. Nous allons ouvrir un texte de notre Bible. Nous allons aller le chercher dans le livre des Nombres, chapitre 16. Voilà, c'est une histoire que vous avez probablement lue à diverses occasions ou même entendue en prédication, mais je pense qu'il est bon de revenir sur cet enseignement. Alors, je rappelle, livre des Nombres, chapitre 16, verset 1er, et voilà ce que nous découvrons ensemble. Corée, fils de Jitsear, fils de Kéta, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab et On, fils de Pelet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, car tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera comparaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Voilà, c'est une histoire tout à fait particulière. On pourrait peut-être parler d'une des plus sombres pages de l'histoire d'Israël. Trop souvent répétée, qui hélas, qui relate les méfaits et les tristes conséquences de l'esprit de contestation qui s'est emparé au désert du peuple de Dieu. Voilà. Et ce n'était certainement pas la première fois. Et nous avons donc cette chronique qui nous revient pour en tirer des leçons pratiques pour chacun d'entre nous. On relèvera dans cette courte lecture que le mal a débuté dans un cercle très restreint. Seulement quelques personnes. Vous savez que le peuple d'Israël était très nombreux. Sorti d'Égypte, ça se comptait par centaines de mille. Et peut-être là, millions. Pour ensuite, à partir de quelques individus, s'étendre à un groupe de 250 environ et à finir par enflammer l'ensemble du peuple d'Israël. Vous savez que quand Jésus nous parle du levain, ou Paul, il nous dit que le levain fait gonfler toute la pâte. Pour le bien, c'est plus difficile. Le bien vient difficilement. Mais le mal, et ce genre de mal que nous allons observer ce matin, eh bien ça, c'est quelque chose qui prend des proportions très rapides. Le fait de la contagion, si je peux m'exprimer ainsi, à lui seul, souligne la gravité du phénomène lorsqu'il se révèle, premièrement, dans une famille, ça existe malheureusement, ou dans une nation, ça dégénère quelquefois en guerre civile, mais aussi dans une église, parce que l'église n'est pas exemple de tout cela. Le récit que nous avons lu il y a un instant, s'il a été consigné dans la Bible, a un but préventif. Ouais. Il faut que nous puissions être au courant, que nous puissions être avertis, que nous puissions être attentifs, que nous puissions être informés qu'il peut y avoir Eh bien, dans une société, dans une communauté, petite ou grande, il peut y avoir quelque chose qui est dangereux, qui peut être dangereux. Et nous voyons que cela vaut tout autant pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est pour cela que les choses qui ont été écrites l'ont été pour notre instruction, nous dit Paul dans une de ses épîtres. Éluder la question, se fermer les oreilles ou le cœur ou les yeux, revient à s'exposer dangereusement devant la menace permanente de l'adversaire qui fait peser sur l'Église, eh bien, une grande menace. Oui, c'est ainsi. Alors, on peut toujours dire, oui, mais ça n'arrive qu'ailleurs. C'est pas ici, c'est pas là, c'est autrement. On l'a vu autour de nous. Et dans les familles, c'est pareil. Dans les couples, c'est pareil. On se dit, oui, mais c'est chez le voisin. Mais faisons attention parce que c'est pas tout à fait comme cela que ça se passe. C'est beaucoup plus subtil. Et nous voyons que cet adversaire dont nous avons dit un mot il y a un instant excelle avec beaucoup d'expérience pour, vous le savez, selon un terme évangélique, diviser pour régner, susciter des conflits, enlever la paix des cœurs, en un mot, troubler. C'est lui, hein, qui est l'auteur de tout ça. Oh, c'est vrai que les hommes sont souvent, eh bien, là, les vecteurs, hein, parce qu'ils ne font pas attention, parce qu'ils trouvent parfois, eh bien, des racines au fond du cœur. Et c'est précisément ce que nous allons voir, parce que ça ne commence pas seulement au ciel, mais ça commence aussi dans le cœur des hommes. Vous savez, un terrain où les mauvaises herbes poussent, c'est qu'elles trouvent de la bonne terre. Enfin, elles trouvent une terre favorable, en tous les cas. Et ça va très vite, et ça pousse très, très vite. Alors, on comprend tout cela. Ça s'appelle tout simplement le trouble, troublé. Afin de nous prémunir, il faut réfléchir, et le principe servant de cadre à notre réflexion pourrait être le suivant. Je cite l'apôtre Paul, au chapitre 5, il est dit ceci, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'obéir à nos semblables, d'obéir à ceux qui bien, sont autour de nous. D'ailleurs, nous voyons la relation enfant-parent, ou peut-être là, dans ce grand problème qui occupe notre société d'aujourd'hui, les scolaires avec leurs professeurs, etc. Et puis après, ça s'en va bien plus haut, naturellement. Alors, Paul avait trouvé cette formule, disait, mais soumettez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Ça veut dire qu'il y a, en effet, un rapport qui fait que nous respectons. Et nous respectons ceux qui ont été investis d'une mission, enfin je parle sur le plan chrétien, investis d'une mission de Dieu, ou par Dieu. Alors c'est vrai que quand on conteste avec un homme qui est investi d'une mission et que Dieu lui a donnée, c'est pas contre l'homme qu'on conteste, c'est contre Dieu. Je vous dirais que l'homme n'est pas parfait. On peut toujours lui trouver des défauts, on peut toujours lui trouver des inaptitudes ou toutes sortes de choses. On peut toujours dire, ben voilà, mais c'est peut-être justement le grand défi que nous avons à dépasser, de dire, c'est vrai que c'est un homme, mais c'est un homme que Dieu a placé, c'est une femme que Dieu a placée ici. Il a été doté de dons ou de capacités ou d'un ministère, alors il faut le respecter comme tel. Et c'est ce que nous allons voir pour deux hommes, Moïse et Aaron. On ne peut pas dire que Moïse n'a pas été appelé par Dieu. Puisque quand Dieu l'a appelé, il a dit « Moi, j'y vais pas. T'as choisi un autre. » Bon, c'est pas lui qui voulait y aller, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Quant à Aaron, c'était pareil. Il était le grand souverain sacrificateur, le premier d'ailleurs de l'histoire d'Israël. C'était pareil. Hein. On peut pas dire qu'il a couru devant la en disant « Mais moi, je serai un grand homme. Je serai véritablement le représentant spirituel de toute la nation. Et mon nom sera un nom qui va se perpétuer dans les temps. » Alors non. Ce par qui, on pourrait dire, le trouble a commencé, on va les voir, la nation d'Israël constituait, et Dieu l'avait voulu ainsi, une grande famille. N'oublions pas que l'Église, c'est une famille avant tout. Et vous savez, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons un Père dans le ciel, et nous sommes tous appelés frères et sœurs. C'est quand même le caractère familial qui y ressort. Ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas une coopérative, ce n'est pas une... tout ce que voudrait, une association humaine ou tout ce que voudrait. Elle est humaine, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'autre. Alors, c'est une grande famille. Et pour Israël, c'était une grande famille qui était composée de différentes familles que l'on appelait des tribus. Ils étaient tous israélites, c'était tous des enfants de Dieu, mais il y avait naturellement, eh bien, différentes maisons qui s'appelaient des tribus. Et nous voyons que ce qui nous est dit, c'est que Corée, qui est le meneur, fils de Lévi, Dathan, Abiram, et tous trois des fils étaient aussi des fils de Ruben. Enfin, Lévi, une tribu, Ruben, une autre. Quatre personnages dans l'esprit desquels va naître une funeste ambition et qui va les conduire pour sa réalisation à la révolte. Que Dieu mette des ambitions dans le cœur des hommes, nous disons Amen. Et c'est vrai et c'est formidable. Mais les ambitions que Dieu donne, ce sont des ambitions qui glorifient Dieu et qui vont vers le bien et qui font du bien, qui sont en effet favorables à la paix et à l'unité. Et le mot révolte que je viens de citer, c'est le contraire, c'est la division. Parce que à nous d'en juger, mais quand le but est mauvais, il ne peut en être autrement du moyen pour l'atteindre. Et or, les moyens que ces quatre hommes vont prendre, c'est véritablement désastreux. Désastreux. Alors, c'est dit d'une manière très lapidaire, il nous est dit qu'il se révolta. Pourquoi nous révoltons-nous? Pourquoi nous n'en voulons plus? Pourquoi nous poussons quelquefois des gens à la porte? Pourquoi nous ne supportons plus? Alors, premièrement, je vous dirais d'abord, c'est parce que nous n'aimons pas ou nous n'aimons plus. Ça, c'est déjà un premier point. Mais c'est parce que, quelque part, on se dit, soit la situation est insupportable, elle est insupportable parce que notre vis-à-vis, lui, est insupportable. Il faut prendre les deux aspects. Ou alors, parce qu'il fait des choses qui sont dans la pensée de Dieu et dans la volonté de Dieu, mais que nous ne les supportons pas, parce que si nous étions à sa place, nous ferions autrement. Alors, c'est toujours facile de dire « si j'étais à sa place ». Vous savez, on le dit, On le dit quelquefois. « Ah, si j'étais à ta place, je ferais autrement ». Eh oui, mais on n'est pas à la place de l'autre. Alors, il s'est révolté. Je rappelle que Corée était lévite. C'était lui qui, dans cette tribu, c'était la tribu qui avait été distinguée par Dieu pour, là, le service spirituel. Alors, il était lévite et il appartenait à une tribu qui était privilégiée parmi les lévites, préposée au service de Dieu. Et on se demande pourquoi il se révolte, parce que qu'est-ce qu'il voulait encore? Il faisait partie des tribus les plus honorées, les plus honorables. Vous vous rendez compte, le caractère même spirituel et religieux de cette catégorie. Et qu'est-ce qu'il voulait encore? Et vous savez, on voit ça, c'est quelque chose qui quand même caractérise toutes les sociétés, notre société. C'est que quand les gens ont, quand ils sont en position, quand ils sont en bonne place, élevés en dignité, ils en veulent encore. On demande où ils vont aller, Ils vont crever le plafond à un moment donné. Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que Dieu nous dit qu'il fera grâce aux humbles, oui, et qu'il abaissera les orgueilleux. Parce qu'on se demande pourquoi il s'est révolté, Corée. C'était un chef, c'était un meneur, il appartenait à une tribu distinguée. Dans cette tribu, il y avait une famille qui était la sienne et qui était encore plus haut placée que les autres. Les trois autres, dont nous avons cité les noms, faisaient partie de la tribu de Ruben. Et vous savez que la tribu de Ruben était une tribu aussi privilégiée parce que c'était la tribu aînée. Ruben était le frère aîné parmi les 12 des fils de Jacob, qui avait perdu sa primauté. Et vous savez comment la tribu de Ruben avait perdu sa primauté? Vous vous souvenez de l'histoire? C'est que Ruben avait couché avec la femme de son père qui s'appelait Bila. Ça vous rappelle des choses? Vous l'avez lu dans la Bible. Enfin, ce n'est pas des faits extraordinaires que nous mémorisons, parce qu'il n'y a rien de très moral dans cette affaire. Et Dieu lui avait dit, « Bien, tu vas perdre ton droit d'aînesse, tout simplement. » Et il faisait partie, dans cette tribu, des conducteurs du peuple. Lévi était conducteur spirituel, et Ruben était, normalement, avant sa déchéance, le conducteur, on pourrait dire politique ou tout ce que vous voulez, enfin l'aîné de la famille, donc privilégié aussi. Bien que favorisé, le mécontentement a été à la base de la rébellion et c'est indirectement qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Ils auraient pu s'en prendre à Dieu en disant « Mais Seigneur, on n'est plus d'accord avec toi. Tu nous fais ceci, tu nous fais cela, tu nous fais promener dans le désert. Nous, on est sortis d'Égypte, c'est pour vraiment aller dans le pays que tu nous as promis, le pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan. Et là, ça fait des années que tu nous fais tourner en rond. » Alors ils le font, c'est comme ça, c'est toujours... De toute façon, les gens qui se révoltent, ils ne le font jamais directement. Ils le font toujours en biaisant, d'une manière détournée, et ils font la même chose, c'est très humain. Comme toujours en pareil cas, il faut justifier le péché, et c'est souvent notre semblable, qui va prendre, en tous les cas certains d'entre eux, C'est notre semblable qui fait office de bouc émissaire. On en a parlé il y a quelque temps. Et vous savez comment il s'appelle le bouc émissaire en la circonstance? Il s'appelle Moïse. Enfin, il y en a deux. Il y a Moïse et Aaron. Voilà. Ben oui, parce que Dieu, il est invisible. Hé, descends du ciel et puis on va régler ton compte, hein, Dieu. Mais le Seigneur reste, il descend pas. Par contre, un brave Moïse et puis Aaron qui sont là, ils sont sur la terre, ils sont à notre niveau, ils sont pas plus grands que nous. Alors là, on peut quand même leur dire ce que l'on pense. Ils se sont ouverts contre Moïse. Parce qu'ils se sentaient probablement pas de taille à faire face à l'homme de Dieu. Alors, ils ont gagné habilement, je dis bien, oui, ils ont gagné d'une manière subtile leur cause, à leur cause, 250 autres, et non des moindres, dans le peuple d'Israël. Ils sont allés chercher les chefs de famille, ils sont allés chercher les princes. Ce n'était pas le bas peuple, hein, parce que ça n'aurait pas forcément fonctionné comme ça. Il n'y avait pas de syndicat à l'époque, hein, du prolétariat. Non, ils sont allés chercher les têtes du peuple. Ils avaient, figurez-vous, fomenté une conspiration à haut niveau. Et le texte nous le rapporte, ils avaient été dire du mal de Moïse et d'Aaron à ceux des principaux, de ceux qu'on convoquait à l'Assemblée, des hommes de renom. Là, on pouvait dire que Aaron et Moïse, compte tenu certainement de la revendication ou de la gravité finalement de l'attaque, là, avec 250, parmi les princes et les chefs, ils étaient perdus, hein. Mais quelquefois, on peut se sentir perdu, mais c'est le Seigneur qui prend notre défense, vous allez voir. C'est un faux calcul, hein, pour Corée et puis le reste. On s'étonnera d'une telle influence. Oui, on s'étonnera qu'une telle influence ait pu avoir du succès. Mais ce n'est pour un temps. Peut-être y avait-il en Israël à ce moment-là un manque de vigilance ou un manque de perspicacité. Vous savez, il faut pardonner quand même à Moïse, hein, parce qu'il avait quand même du travail. Et gérer près de 2 millions ou plus de personnes dans un désert, déjà, quand ils ont de l'eau, quand ils ont des maisons, quand ils ont tout ce qu'il faut, et ceci et cela, on sait ce qu'il en est, c'est pas évident. Quand les gens ont, ils se plaignent. Alors là, ils avaient moins. Et on peut croire que ça ne devait pas être certainement facile. Et on peut peut-être dire, mais bon, les circonstances. Le but, c'était qu'en atteignant les responsables, l'unité du peuple était mise en péril. Parce que vous savez, quand vous touchez une tête, quand vous touchez un responsable d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous pouvez toucher tout le reste. Et c'est comme ça que ça passe. Vous savez, ça, c'est vrai pour un chef d'État. C'est vrai pour le cas qui nous entretient ce matin, Moïse et Aaron, qui étaient les autorités. C'est vrai également pour n'importe qui, à quelle que soit sa position. C'est vrai pour un pasteur. Hein. C'est vrai tellement pour un pasteur, c'est que Jésus l'a dit. Hein. Quand il est dit à un moment donné, ils atteindront, ils battront le berger, et le peuple et le troupeau s'enfuira. Enfin, je le dis peut-être pas dans les mots, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et il savait très bien que quand Judas a livré Jésus, qu'en touchant Jésus, eh ben, le peuple s'éparpillerait. Et c'est vrai que de fait, il s'est éparpillé, mais heureusement qu'il y avait le Saint-Esprit pour leur dire « Maintenant, vous revenez. Hein. » « Je ne suis pas mort, je suis vivant et je suis ressuscité. » Et l'Église n'a jamais été aussi prospère après. Donc le diable fait une œuvre qui le trompe, ça on le sait. Maintenant, nous allons rentrer en considération de quelque chose de particulier. C'est l'objet de la protestation. Et on va relire le verset 3, parce qu'il est quand même intéressant. Je ne vais pas dire trop de choses ce matin, mais on va le reprendre. « Ils s'assemblèrent, verset 3, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez ». Vous savez ce que ça veut dire « C'en est assez » ? On en a par-dessus la tête de vous. Ah ouais. Vous comprenez mon signe ? Aujourd'hui, il y a une expression qui dit « ras-le-bol ». Quand les gens en ont, voilà, ça va, c'est trop, maintenant c'est terminé. S'en est assez, c'est dit d'une manière très pudique. Car toute l'assemblée, et ils ne vont pas se mettre en avant, ils vont prendre à partie, ils vont prendre à témoin toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Il ne parle pas d'eux, il parle des autres. C'est facile hein, de vouloir donner des arguments en se servant des autres pour dire « mais les autres sont d'accord avec nous hein. ». Eh oui, parce que vous avez remarqué, hein, tous, il n'y en a pas un seul qui fait défaut. Ils sont tous saints et Dieu est au milieu finalement de son peuple. Et là, la question qui arrive, c'est véritablement la torpille. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Ils ne diront pas pourquoi tu t'élèves, pourquoi vous vous élevez au-dessus de Dieu. Non, non. Parce que là, on ne veut pas trop toucher à cette dimension. Mais pourquoi vous, les hommes, pourquoi vous, Moïse et Aaron, vous voulez régner? Vous voulez faire la pluie et le beau temps? Vous voulez, vous comporter comme des rois et comme des princes? Ça, c'est une accusation qui revient très souvent. Quand on n'aime pas quelqu'un, quand on ne veut pas quelqu'un, alors on peut toujours lui dire, bah, dis donc, tu prends trop de place. Oui, mais s'il ne prenait pas la place, parce que vous savez, il y a des places qui sont données, et quelquefois qui sont gérées en toute humilité, mais elles sont là parce que ce sont des garde-fous pour tout le reste. Hein. Sans vouloir faire les gros bras, et sans vouloir... parce que bon, c'est comme ça. Un responsable qui ne prendrait pas ses responsabilités, qui n'aurait pas à la fois eh bien, la vision des choses, qui n'aurait pas la fermeté dans certaines choses, tout en étant eh bien, accessible aux besoins du peuple, bah, ce ne serait pas un responsable. Pourquoi Dieu, dans la société de toujours, suscite des chefs? Oui, c'est parce qu'il y a des raisons. Et vous savez, j'ai toujours remarqué, et vrai pour Moïse, vrai pour également d'autres, on s'aperçoit que les gens qui sont choisis par Dieu, ce sont des gens qui ne veulent pas y aller. Quand vous avez quelqu'un qui dit « moi je veux y aller, je cours », vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, vous vous préparez à... Mais on le voit, « Seigneur, tu en envoies un autre hein, », dira Moïse. Et puis, dans d'autres situations comme ça. Eh oui, ça, c'est un critère de reconnaissance. Souvenez-vous-en. Souvenez-nous-en pour l'avenir de l'Église, de cette Église. Si vous avez des gens qui viennent et qui viennent avec vraiment l'humilité en disant « moi, je ne me sens pas capable de grand-chose », eh bien, vous pouvez dire que ce sera vraiment envoyé par Dieu. Si vous avez des gens qui viennent et qui vous disent « mais moi, je suis capable de bouleverser votre Église », vous allez voir, ça va être formidable, faites-moi confiance. Ah, il va y avoir du feu au départ. Hein. Après, il y aura des cendres. Méfions-vous. Parce que ça, c'est le critère, je le rappelle ce matin, c'est le critère, finalement, biblique. Et Dathan, Abiram, et puis Corée, eh bien, ils voulaient amener le feu. Enfin, je ne vous dis pas la suite, vous pourrez le relire, on le reviendra peut-être une autre fois. En fait, de feu, ils en ont eu. Hein. Et c'est eux-mêmes qui sont tombés dans le feu. Vous le relirez, c'est très intéressant, je me suis arrêté à quelques versets aujourd'hui, parce que ça nous suffira pour notre temps. Alors, c'en est assez. Révélation. Et ces révélateurs de l'extrait d'esprit, des opposants de Moïse, il y avait longtemps que le mal, probablement, couvait dans le secret. Vous savez, une situation catastrophique ou une situation d'une manière ou d'une autre ne vient pas du jour au lendemain. Hein. C'est souvent, et là on va en parler, parce que avant d'être ouverte, elle est larvée. On pourrait peut-être mettre l'enfant, s'il vous plaît, dans la pièce là-bas, parce que c'est quand même un enregistrement. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tout cela était finalement sous le feu. Et à un moment, l'abcès, éclate, laissant échapper le poison. Et ils diront, mais la nation est sainte. Nous sommes saints. Comment et pourquoi voulez-vous dominer sur nous? Voilà la question qui est posée à ce moment. Ils iront peut-être même suggérer à Moïse et à Aaron, mais êtes-vous plus saints que nous? Qu'est-ce qui nous différencie de vous? Qu'est-ce que vous avez de plus? Pourquoi occupez-vous une place qui pourrait être tout autant la nôtre? Ben oui, vous savez, dans des places de responsabilité, eh bien, il peut y en avoir qu'un, hein, parce que c'est comme ça. Il peut y avoir aussi de ceux qui aident, de ceux qui apportent la contribution. Et vous savez, Hur et Aaron tenez les bras de Moïse, hein. Ça c'est vrai, ça c'est l'histoire de l'Église. C'est la coopération, c'est la collaboration, c'est ce qui nous amène finalement à réussir, parce que même le plus grand homme, il réussit pas tout seul. Hein. Il ne réussit pas tout seul. Alors voilà ce genre de question qui était posée, mais alors, toi tu es saint, mais nous on ne l'est pas. C'était dans leur tête. Hein. Et pourquoi nous ne serions pas à ta place, etc., etc. Il y a un mal qui ne cache plus son nom et qui, hélas, fait tant de ravages. Ça s'appelle la jalousie. Alors, je ne vais pas vous parler que de la jalousie aujourd'hui, mais je vais vous parler d'autre chose. La jalousie. La jalousie se traduit par un esprit de compétition. On le voit. Et dans un esprit de concurrence malsaine. Et quand on développe cela, je peux vous dire qu'il n'y aura jamais rien de construit et ce qui a été construit sera démoli. Ouais. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du commerce. Ce n'est pas ce que vous voudrez y ajouter, mais c'est beaucoup plus sérieux que cela. Vous savez, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est très difficile de plaire à tout le monde et de contenter tout le monde. Je ne pense pas que Moïse soit un béni oui-oui, où tout le monde pouvait venir le voir avec un goupillon en disant bah, « tu veux ça ? Je te le donne, tu veux ça ? Je te le donne, tu veux ceci ? Je te le donne. » Je ne crois pas que ce soit ça. Moïse était un homme de l'esprit qui savait, il était forcément de l'esprit, c'est lui qui avait reçu à l'origine essentiellement les 10 commandements, il savait ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et nous voyons que ça, c'est la grande difficulté que nous pouvons avoir quand il y a des responsabilités aussi, je parle pour l'Église, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Dans la manière d'être, dans la peut-être même physiquement, ça peut arriver, c'est pas normal, mais c'est comme ça. Dans le style, dans la forme. Vous savez, si vous avez un pasteur qui vous prêche le fond de l'Évangile, eh ben c'est formidable et c'est bien. Là, vous pouvez vous révolter quand il prêche plus l'essentiel de l'Évangile, le fond. Maintenant, quant à la forme, Dieu a donné différentes expressions, différentes manières. Et c'est vrai qu'on ne plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr. Et c'est bien le problème de Moïse et d'Aaron. Parce qu'ils étaient pris dans cette affaire pour cible. Et à ce jour-là, à ce moment-là, ils devaient rendre des comptes. Pour autant, même s'ils étaient établis par Dieu. Et là, ils prenaient des risques, Corée et puis les autres. Parce que ils prenaient vraiment des risques. Je voudrais vous donner 2 citations de l'apôtre Paul qui sont quand même assez évidente, qui nous parle un petit peu de la responsabilité d'un serviteur de Dieu. Et dans Galates chapitre 4 et au verset 15, il est dit cette parole. Alors, voilà. Il s'adresse aux chrétiens de Galates, il dit « Mais où donc est l'expression de votre bonheur ?» Parce que toute l'église de Galatie était tombée dans la tristesse. Et donc, entre la tristesse et le mécontentement, il n'y a pas un grand chemin, vous savez. Quand les gens sont dans le mécontentement, ils sont souvent tristes et aigres. Voilà. Alors il leur dit, « Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Ça commençait par l'amour, mais à un moment donné, on s'est dit, « Paul, on n'en veut plus, pour me les donner. » Et il dira cette parole, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Eh bien, vous savez, Moïse, il a dit la vérité. Aaron disait la vérité. Tout serviteur de Dieu autorisé et inspiré par Dieu va dire la vérité parce que c'est ce que Dieu lui demande. On ne va pas dire des choses qui ne seraient pas la vérité. Et Paul, à force de dire la vérité, eh bien, il ne pouvait plus le supporter. Suis-je devenu votre ennemi pour vous avoir dit la vérité ? Alors, le problème n'était pas chez Moïse, ni chez Aaron, ni chez Paul. Le problème était parmi les chrétiens de Galate, et parmi le peuple dans le désert. Eh, ça c'est quelque chose. Et puis, il ajoutera ceci au chapitre 1er, toujours Galates, et versets 10 et 11. Il voudra bien montrer ces choses. Il dira, mais maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, ben, je ne serais pas serviteur de Dieu. C'est évident. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être aimables à dire. Il y a des encouragements, il y a des exhortations, il y a des soutiens apportés avec des paroles inspirées, avec ce qu'il convient. Mais quelquefois, quand il faut dire non, il faut dire non. Parce que c'est Dieu qui nous demande de dire non. Bon, tout dépend de la manière dont c'est fait. Vous avez des tempéraments qui vont dire « Mais moi, j'aurais dit à ta place, je l'aurais dit plus fermement. » Bon, d'autres diront « Mais mon tempérament et mon caractère et l'inspiration dont Dieu se sert pour me dire les choses, eh bien, moi, m'inspire à suivre les commandements ou tout simplement les recommandations de Paul quand il est dit, si quelqu'un a péché, reprends-le avec douceur. » Il y a les deux. À un moment donné, c'est reprends fermement, tu secoues, tu bouges et tu corriges, tu tues pas. Tu tues pas la vie spirituelle. Puis d'un autre côté, ça dépend du tempérament des uns et des autres. Voilà. Tout simplement. Alors il dit ceci, Mais si je cherchais encore à plaire aux hommes, ben je ne serais pas serviteur de Dieu, parce que je serais un démagogue à ce moment-là. Et puis, quelle importance ça pourrait avoir? Quelle signification? Je ne servirais plus le Seigneur. Alors, je voudrais vous entraîner dans une réflexion maintenant. Comment regardons-nous autrui? Comment Dathan et Abiram et Corée regardaient Moïse et Aaron? Comment regardons-nous? Comment nous regardons-nous et peut-être ceux qui ont une fonction dans l'Église? Tout le monde a une fonction dans l'Église. Maintenant, c'est à chacun de la prendre. Alors, il ne faut pas vous plaindre. Il ne faut pas que les chrétiennes se plaignent en disant « Moi, j'ai rien à faire, je ne sais pas. » Voilà. Chacun. Ça nous revient. Comment pouvons-nous regarder, par exemple, le pasteur? Je ne dis pas ça pour moi, je ne fais pas de la publicité. Pas du tout. Je vous le dis franchement, sincèrement, parce que j'ai à cœur de le dire. Comment regardons-nous un frère ou une sœur qui joue de la musique? Comment regardons-nous un frère ou un frère ancien? Il n'y a pas de sœur ancienne. Un frère ancien qui fait chanter ou autre chose, qui prêche. Comment regardons-nous quelqu'un qui a des aptitudes, peut-être ça ne se voit pas comme cela, mais qui sert dans l'Église à travers un ministère technique, un ministère pratique, un ministère ceci et cela? Comment regardons-nous un frère et une sœur qui passent le balai dans l'Église? Il ne doit pas y avoir trop de problèmes. Voilà, quel regard. Comment ferions-nous à sa place? Si j'étais à sa place, je ferais ceci, je ferais cela. Et vous savez, quand on a parlé de la jalousie a une cousine germaine. Enfin, c'est moi qui dis ça. Il y a deux sortes de jalousie, je le rappelle. Il y a la critique positive. Elle est vraie, elle est juste, mais elle encourage. Voilà. Elle est saine et elle est inspirée par Dieu. Elle construit. Ou il y a la critique négative, mais je vais lui donner un autre mot. C'est une critique tout simplement qui est précédé d'un mot. C'est l'esprit de critique. Et là, ça change tout, qui soupçonne, dont souvent celui qui, par habitude, est tenu dans cet esprit critique, s'en aperçoit même pas. Vous lui dites, tu critiques. Mais non, je critique pas. Ça n'aperçoit pas. Parce que c'est devenu une habitude. Vous savez, il y a des mauvaises habitudes dont on n'est même pas conscient nous-mêmes. Ça, c'est un esprit critique. Et je pense que nos hommes, là, dans notre texte, ils étaient animés d'un esprit de critique. Et puis ça moussait, je peux vous dire. Cette habitude de juger. Pire encore, l'habitude de préjuger, sans savoir. Et c'est dévastateur. Je pourrais dire que c'est un buisson d'épines. Vous savez, il n'en connaissait un rayon, Moïse du buisson d'épines. Mais lui, il ne brûlait pas, il ne piquait pas. Celui qu'il avait vu sur le mont Sinaï. Par contre, là, il va se trouver devant un buisson d'épines. C'est quelque chose. Le mot critique, ou le verbe critiquer, racine grecque, a donné crisis. Et vous savez ce que c'est que crisis? Ça donnait le mot français crise. Vous savez ce que c'est qu'une crise? Une crise politique, une crise sociale, une crise familiale, une crise de ceci, cela. Et la crise, c'est toujours à un moment ou un autre, positivement ou négativement, l'acte de trancher une situation confuse, à un moment donné, pour que ça soit tranché. La crise. On parle maintenant de négocier l'issue de la crise, vous savez, dans les problèmes que nous entendons tous les jours. Et de critique, crise, a donné aussi un autre mot en dérivé, critérion, toujours en grec, qui a donné le mot français critère. Et vous savez ce que c'est qu'un critère? Ce qui permet de distinguer. Alors là, on n'est plus dans le préjugé. Ce qui permet de distinguer, comme Jésus dira, juger selon la vérité, non pas selon les apparences. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est mal, c'est mal. Donc, critique, crise, critérion, enfin, critère, permet de distinguer. C'est intéressant. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez écouter cette histoire et vous allez voir que c'est pas facile d'ailleurs d'être responsable, c'est pas facile d'être Moïse ou Aaron, ou d'être Paul, d'une manière ou d'une autre, parce que on ne peut pas plaire à tout le monde. Et chacun y va de son avis. Si j'étais à ta place, moi je ferais ceci et cela. C'est l'histoire du meunier, de son fils et de son âne. Voilà. Il y avait un vieux meunier et son jeune fils qui qui décident de se rendre à la foire, pour y vendre leur âne. Le père s'assoit sur l'animal qui part entre-temps, le garçon à ses côtés. On imagine la scène. C'est une belle petite aventure qui se prépare, naturellement. En chemin, il rencontre trois hommes. Il rencontre un homme, pardon, ses trois compagnons, voilà, rencontre un homme, un passant, qui, quand il les aperçoit, lève les bras au ciel et s'exclame « Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Un homme solide et bien charpenté, assis sur un âne, pendant que le petit marche à pied à côté de lui. » C'est scandaleux. Voilà. Il ne comprend pas. Alors, à ce moment-là, le père est interpellé, il rougit de confusion, et il saute aussitôt de sa monture, et il prend son garçon, il le hisse, tout heureux, d'être assis sur l'âne. Donc c'est l'inverse qui se passe à ce moment-là. Le père marche, l'enfant se laisse porter par l'âne. Chemin faisant, un peu plus loin, à la vue du trio qui s'avance, quelques personnes, alors là je dis, scandalisées, on ne peut pas penser une chose pareille, vont s'écrier « Mais c'est le monde à l'envers !» Le vieil homme doit marcher pendant que le gamin se prélasse sur l'animal. C'est pas possible une chose comme ça. Vous vous rendez compte, ce pauvre homme? Alors ils vont dire « Mais on ne sait plus éduquer les enfants de nos jours. Faut quand même laisser la place aux anciens. » Normal. Et les gens dire et répéter « Mais de notre temps, ça ne se passait pas comme ça. Les gamins, ils marchaient à pied. Et puis, les anciens, eh bien, on leur donnait le confort qui était nécessaire. » Alors le père demande à son fils de lui faire un peu de place. Et les voilà tous les deux sur l'âne. C'est une bonne solution. Voilà. Un âne de place. Et les voilà marcher, installés sur le bourricot qui s'avance plus lentement et en peinant sous sa sarge. C'est normal, pauvre bête. Nos deux cavaliers ne tardent pas à croiser un passant furieux qui les somme de sauter à l'instant à terre en disant « Mais vous allez descendre de cet âne, vous n'avez pas honte ?» Et il s'exprimera en disant « Mais vous êtes sans cœur, vous êtes cruauté, aucun respect pour les animaux. » Alors, vous vous rendez compte, oser monter à deux sur le même âne, mais vous allez le tuer, la pauvre bête. Alors, tout à nouveau, le père, et puis le gamin, là, maintenant, penaud et inquiet des risques de représailles, parce qu'il est violent, celui qui lui a dit ça, de la part de ce que nous pourrions appeler cet ardent zélateur de la société protectrice des animaux. Les deux coupables vont obtempérer aussitôt en jurant qu'on n'y reprendrait plus. Et à peine ont-ils fait quelques pas un peu plus loin, qu'un immense éclat de rire se fait derrière eux, une voix moqueuse s'élève. Mais ils sont fous, mais ils sont fous, ils sont fous alliés. Marcher à deux à côté d'un bourricot, eh bien il faut le faire. Parce que quand on a un âne, on s'en sert. Finalement, après s'être longuement gratté la tête, le vieux meunier et son fils vont prendre une décision inattendue qui leur semble être la plus sage. Ils vont rassembler toutes leurs forces et ils soulèvent péniblement l'âne et ils le portent sur leur dos. Voilà, il était content l'âne, il était content. Et ils sont repartis lentement, emportant le bourricot sur leur dos, vaille que vaille, mais ils avaient le moral à zéro, je tiens à vous le dire. Et je voudrais vous dire pour la petite histoire, c'est qu'ils ont mis du temps pour aller à la foire quand ils sont arrivés. Eh bien, la foire était finie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ramené l'âne. Mais ils ne nous ont pas dit comment ils l'ont ramené et comment ils sont revenus. Écoutez ce que nous dit Jésus. Ne jugez pas. On est d'accord? Tous les chrétiens disent oui. Bien sûr qu'on ne juge pas. Et nous avons parlé de deux mots tout à l'heure, enfin un mot, critique et critiqué. Dans le grec, critique, c'est krinein, donc c'est une racine. Cri, en grec, c'est choisir et trier. C'est ce que ça veut dire. Qui signifie d'abord séparer, trier, trancher, cribler. D'où prononcer une sentence, rendre un verdict et juger, et peut-être en dernière instance condamner. Et l'esprit de jugement ou de critique doit être pris dans sa considération, et là, c'est là justement où nous sommes appelés à la réflexion, c'est que là où ça devient grave, si c'est juste, c'est bien. Mais si c'est pas juste, c'est que ça peut prendre une dimension essentiellement condamnatoire et destructrice. Et c'est ce qui nous ramène à Moïse et à Aaron. Homme établi par Dieu, homme autorisé par Dieu, et nous voyons que qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait de la jalousie, et la jalousie, ça nous amène à critiquer. Et ça, c'est assez difficile. La jalousie, si on peut la comparer à une démangeaison, ça vous est arrivé de faire de l'urticaire géant? Là, vous passez des bonnes nuits, hein. Ou peut-être même un cancer. La Bible aborde souvent le péché de jalousie du cœur humain. Cela est même envisagé quand il devient chronique. Et quand il devient chronique, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un esprit, un état d'esprit de jalousie ou un état d'esprit de critique, où celui qui en est atteint en perd jusqu'à sa dignité, son bon sens, et parfois il n'est même plus maître de lui-même. Parce que non seulement il se détruit, mais il détruit les autres autour de lui. Et là, nous voyons que la visée, c'était Moïse et Aaron, mais le but ultime de l'adversaire, c'était de détruire tout le peuple. C'est ça ce qui est dangereux. Et dans un foyer, dans un couple, dans une famille, dans une église, c'est de détruire qu'il ne reste rien du tout. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. La jalousie a autant d'objets que le cœur de l'homme est mauvais, et tout ça à un moment ou à un autre, ça ressort. Ce peut être des convoitises charnelles, matérielles, des convoitises affectives, sentimentales, morales, spirituelles. En d'autres termes, c'est l'envie du bonheur ou de ce que possèdent les autres et que je n'ai pas. Et c'était bien le problème de ces accusateurs. Ah, ils auraient voulu être souverains sacrificateurs. Ils auraient voulu, certains, être à la place de Moïse, etc., etc. La jalousie, c'est vouloir pour soi, et elle est diamétralement opposée à l'esprit de l'Évangile, qui est le don de soi. C'est ça la différence. C'est véritablement le contre-pied radical, absolu et total, finalement, de ce qui se passe. L'Évangile, c'est ça. Le don de soi. Et vous savez, quand on donne, on s'enrichit. Quand on garde pour nous, on s'appauvrit. Ça, c'est le livre des Proverbes, je n'invente rien. La jalousie ouvre les portes de l'enfer. Et quelqu'un a dit que le carburant de l'enfer était le « je », le « moi », mon, mien, c'est-à-dire tout ce qui est possessif et tout ce qui me ramène à moi-même. C'est ça le carburant de l'enfer. Et c'est ce qui brûle en enfer et continue à l'alimenter, parce que tant que vous en ramenez, ben, ça va brûler, tout simplement. L'évangile de la crucifixion, de la mort à soi-même, du renoncement à soi-même, du portage de notre croix, apparaît pour faire disparaître l'enfer, faute de combustible. Si nous sommes imprégnés de l'esprit de l'évangile et l'esprit de Christ, alors à ce moment-là, il n'y aura plus rien. Et c'est vrai que, certainement, parmi les maux qui affligent la nature humaine, ou un homme ou une femme, lorsqu'il se convertit, peut-être Dieu et le Saint-Esprit est en train de lui dire « Mais tu as besoin vraiment de changer par rapport à cette façon de faire que tu avais avant. » Le Seigneur appelle les jaloux, il appelle les médisants, c'est vrai, mais il ne veut pas les prendre pour dire « Vous restez comme ça dans l'Église. Hein. » Ça va donner un peu d'animation. Hein. Non, c'est pour que nous soyons changés. Et c'est ça, justement, ce que nous avons besoin de comprendre. Et ça, c'est un travail que le Saint-Esprit va faire. Mais celui qui ne combat pas la jalousie sérieusement, en s'empoignant devant Dieu, maintient les portes de son enfer et de l'enfer ouvertes. Et c'est un véritable danger. C'est dramatique. En attendant d'y être lui-même absorbé, je voudrais le dire encore, c'est que la jalousie, c'est un péché. On dira des péchés de ceci, de la chair, de ceci, cela, d'accord, bon. Mais on ne parle pas de critique, la jalousie, toutes sortes de choses. L'avertissement est formel. Voulons-nous une preuve par l'image? Je n'ai pas le temps, mais si vous lisez les versets du chapitre 31 et 33, vous verrez un peu comment c'est. Il n'y a aucune tolérance et aucune complaisance est possible avec notre propre jalousie et celle des autres, et le risque qu'il fait encourir au plus grand nombre. Corée, Lévite était jaloux du sacerdoce d'Aaron, supérieur au sien, et de l'autorité spirituelle de Moïse, parce que je voudrais vous dire, un jaloux n'est jamais spirituel. Il ne sera jamais spirituel. Ce n'est pas possible, puisque l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec un esprit qui dévore, avec un esprit d'égoïsme. Ce n'est pas possible. Donc, si quelque chose se passe, quelqu'un est pris en constatation de jalousie à travers ses paroles d'une manière ou d'une autre, ben vous pouvez toujours classer la personne, vous dites, il n'est pas spirituel. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Et les Rubénites, la tribu de Ruben, Dathan, Abiram, eux étaient jaloux de la supériorité de Moïse et de son frère sur le peuple parce qu'ils avaient possédé le droit d'aînesse à un certain temps et ils en avaient été dépossédés. Ils se disaient, mais maintenant, ils voulaient bien le récupérer. C'est comme Saül, lorsqu'il a été autorisé par Dieu et qu'il a perdu finalement l'autorité de Dieu et la dimension spirituelle de Dieu, il a fait la guerre pendant près de 40 ans à David après. Hein. C'est ça. Alors quand on a une chose, nous la gardons. Quand Dieu nous a donné quelque chose, il faut la garder. Mais après, si on la perd, eh bien, il ne faut pas en faire voir de toutes les couleurs aux autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je vais m'arrêter là. On continuera, il y aura une suite. Mais une chose qui est certaine, c'est que on s'aperçoit que ça fait partie de l'humanité, tout cela. Eh oui. On peut être plus ou moins orgueilleux. On peut être plus ou moins jaloux, on peut être plus ou moins avec une tendance critique d'une façon ou d'une autre. Mais ça, ça fait partie de l'humanité. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur nous dit maintenant, « Moi, je suis le potier, et je vais te prendre sur mon tour. Tu es l'argile, et d'un vase vil, je veux que tu deviennes un vase d'honneur qui me glorifie. » Alors le Seigneur a encore certainement beaucoup de choses à nous dire sur ce chapitre, parce qu'on n'a fait que l'effleurer. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce que je voudrais vous dire, soyons à la place que Dieu nous a placée. Avec la grâce de Dieu, on fera pour le mieux. On tâchera de faire vraiment au plus proche et au plus juste de la volonté de Dieu. Maintenant, n'allons pas nous préoccuper de ce que peuvent penser les autres. C'est peut-être leur problème d'être jaloux, c'est peut-être leur problème d'être critique. C'est peut-être aussi ceci ou cela. Mais toujours est-il qu'une chose, même si nous sommes sous les bordées et les tirs croisés de certaines personnes dans notre vie d'entreprise, ou peut-être dans notre famille, ou peut-être dans l'Église. Alors, remettez tout cela entre les mains de Dieu, ne vous en occupez pas, parce que vous avez autre chose à faire. Vous avez autre chose à faire, et c'est fait justement pour perturber, c'est fait pour détourner, c'est fait pour amener la peur, la crainte, les angoisses. Combien de fois, lorsque nous avons pu, à un moment ou à un autre, être attaqués par des gens qui étaient jaloux, ou des gens qui voulaient que nous portions l'âne sur le dos, eh bien, je peux vous dire qu'on a passé des nuits d'insomnie. Des nuits, on se retournait dans tous les sens pour dire, mais Seigneur, comment? Jusqu'au moment où Dieu me dit, mais c'est moi qui vais m'en occuper. Ouais. Compense le mal par le bien, en faisant le bien. Et ça s'est fait. Ça s'est fait, frères et sœurs. Alors moi, je vous dis, c'est un encouragement. Et pour que l'Église soit saine, pour que l'Église reste saine et sainte, ce sont des enseignements fondamentaux, me semble-t-il. Pour rappeler ces choses, que ça n'existe pas seulement en dehors, mais ça existe aussi dans l'Église. Et que nous avons besoin, finalement, eh bien, d'être remplis du Saint-Esprit, d'abord pour discerner, pour voir, pour comprendre. Et puis si quelqu'un, peut-être, est tombé dans ce piège, en étant devenu inconscient de cette situation, Prier dans un premier temps. C'est pas la peine d'aller au conflit, à l'affrontement, ça sert à rien. C'est comme si on mettait de l'huile sur le feu, ça sert à rien. Mais prier. Et prier pour ce frère et cette sœur. Prier pour celui qui est comme cela. Et à un moment ou à un autre, eh bien, vous allez voir, il va y avoir des circonstances, des événements qui vont faire que soit il ne pourra pas rester dans la communion des frères et des sœurs de l'Église, ou soit à ce moment-là, comme nous l'avons vu, hein, heureusement, de dire, eh bien voilà, j'étais comme ça, mais je ne m'apercevais pas que j'étais comme ça. Et depuis, eh bien, le Seigneur m'a ouvert mon cœur. Il m'a éclairé sur ce que j'étais. Et aujourd'hui, de ce problème, de celui-ci ou de celui-là, je le tiens en horreur. J'en ai même plus envie, ça me dégoûte. Voilà. Et vous savez, c'est beau, hein ? C'est formidable, parce qu'au moins l'Église est vivante et elle change. Parce que nous sommes en perpétuel changement. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et on verra ça, on continuera une autre fois, si le Seigneur le permet. Nous allons simplement prier et bénir son nom. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as porté à une réflexion ce matin qui est en effet tellement proche de notre humanité, de notre nature. C'est vrai, Seigneur, que nous ne sommes peut-être pas tous comme ça. Mais si nous ne le sommes pas dans ce sens, nous pouvons l'être dans un autre sens. Alors, c'est vrai, nous sommes tous, nous pourrions dire, logés à la même enseigne. Nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, pas tous les mêmes préoccupations ou les mêmes convoitises. Mais une chose qui est certaine, c'est que toi qui lis le fond de notre cœur, tu sais comment nous sommes. Alors Seigneur, donne-nous de nous laisser éclairer par ta parole, illuminer par ton esprit. Et puis si nous sommes peut-être dans la position de critiquer, position d'être critiqué, d'être sous le feu croisé, de toutes sortes de choses qui sont à la fois injustes et très désagréables, alors donne-nous d'avoir une réaction spirituelle, comme Moïse. Oui, parce qu'il nous est dit que Moïse est tombé sur sa face. Et la première chose, c'est qu'il ne s'en est pas pris à ceux qui lui voulaient du mal. Il s'est tourné vers Dieu pour prier pour eux. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, de pouvoir exercer, vraiment dans les temps de crise, une critique positive. Et ainsi, Seigneur, tu mettras devant nous les critères qui nous permettront de juger, de distinguer et d'apporter une appréciation qui ne soit pas la nôtre, mais celle qui vient du ciel, celle de celui qui a été l'inspirateur et l'auteur du sermon sur la montagne et des béatitudes. Et nous voulons te rendre grâce dans le nom de Jésus. Tu nous bénis, Seigneur, ce matin. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Et tu fais ton œuvre. Et si quelqu'un, tout simplement, dans son cœur, fait monter cette prière, s'il désire faire monter cette prière, Seigneur Jésus, change-moi. Oui, je suis comme ça. Sur ce point, sur cet autre point, sur celui-ci ou sur autre chose, eh bien, Seigneur, je te demande, après avoir entendu ta parole, oui, Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors crée en moi, Seigneur, un cœur pur et un esprit bien disposé, et que je dois débarrasser de ces scories, Seigneur, qui me font souffrir, mais je sais que ça fait souffrir aussi les autres. Alors, dans le nom de Jésus, moi, je suis un collaborateur. Je contribue à la bénédiction de l'œuvre de Dieu, de ma famille, là, du cercle dans lequel je suis. Mais, Seigneur, je ne veux pas être autrement qu'en effet de celui qui construit et pas celui qui détruit. Merci, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Amen. Amen.